César, écumant de rage et poussant des cris de fureur, se tournait comme une bête féroce, tantôt contre l'un, tantôt contre l'autre. Mais après le coup qui lui fut porté par Brutus, perdant toute espérance, il s'enveloppa de sa toge sénatoriale et se laissa tomber tout doucement au pied de la statue de Pompée. Les conjurés continuèrent de le frapper après cette chute, jusqu'à ce qu'il eût expiré après 23 coups de poignard. Plusieurs des conjurés, au milieu de leur acharnement, se blessèrent les uns les autres. Appien, Les Guerres civiles, livre 2, chapitre 16.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au matin du 15 mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, César a passé une mauvaise nuit. Après un repas chez son maître de cavalerie Lépide, chez qui un des thèmes de conversation fut la mort, « La moins attendue », a répondu César lorsqu'on lui a demandé ce qu'il préférait comme type de décès. Il a passé une nuit agitée. Sa femme, Calpurnia, a fait elle-même des cauchemars. Elle demande d'ailleurs à son époux de ne pas se rendre à la séance du Sénat, prévue dans la curie de Pompée, à proximité du théâtre que celui-ci a construit sur le champ de Mars à Rome. Ayant hésité, ayant quelques vertiges, César décide de ne pas s'y rendre. C'est alors qu'un sénateur, Decimus Brutus, vient le voir et lui dit que vraiment tout le Sénat était déjà installé dans la curie, il serait dommageable de ne pas se rendre à la séance. César décide de ne pas y aller à pied et commande une de ses litières pour faire les quelques centaines de mètres qui le séparent de sa maison sur le forum jusqu'à la curie de Pompée. Le trajet va durer de 10h à 11h du matin. Il est assailli par la foule qui le salue, l'acclame, lui remet des demandes. Un homme, d'ailleurs, lui donne un placé dans lequel il annonçait un complot contre lui et qui fut retrouvé dans la main de César, mais il n'avait pas eu le temps de le lire. Arrivé à la curie, César entre pour se diriger vers la chaire réservée au président de séance, coiffé d'une couronne de laurier d'or. Un sénateur, proche du complot, parvient à retenir Marc-Antoine, le fidèle lieutenant, et qui aurait pu éventuellement secourir César au moment de l'assassinat. Marc-Antoine resta en fait à l'extérieur de la salle. Installé sur son siège de présidence, César va être alors assailli par plusieurs sénateurs qui lui portent des coups multiples et qui vont lui être fatales. Mais alors, pourquoi ce meurtre ? Depuis sa victoire sur Carthage, lors de la Deuxième Guerre punique, à la fin du second siècle avant Jésus-Christ, Rome est clairement devenue une république impériale qui a progressivement établi son hégémonie sur le bassin méditerranéen. César y participe en faisant la conquête de la Gaule, réduite en province en 51, année qui suit la victoire d'Alésia contre Vercingétorix. Ces conquêtes avaient montré, certes, la puissance de Rome, mais avaient également déstabilisé les institutions de la vieille république oligarchique. Ces institutions s'avérèrent incapables d'assurer la stabilité politique et la gestion rationnelle des provinces. Plus que le Sénat et les consuls, ce sont les chefs de guerre et leurs troupes qui se disputent le pouvoir. À partir du début du 1er siècle avant Jésus-Christ, les guerres civiles minent la République. Après le conflit entre Sylla et Marius, dans les années 80-78 avant Jésus-Christ, Pompée et César se sont affrontés. Ils avaient formé le premier triumvirat avec le richissime Crassus en 60. Mais cette construction politique s'était effondrée en 50, lorsque le Sénat avait remis en cause le pouvoir de César. Il est vrai que Crassus, étant mort en 53 avant Jésus-Christ dans une malheureuse campagne contre les Parthes, restait face à face le grand Pompée et le vainqueur des Gaules. Dès lors, un conflit paraissait évident à beaucoup. La condamnation du Sénat avait poussé César à un geste jugé illégal. Le 12 janvier de l'an 49 avant Jésus-Christ, il avait franchi le Rubicon. Cette petite rivière était normalement la frontière légale entre les provinces et le territoire italien sur lequel les généraux ne pouvaient entrer avec leurs troupes sans l'accord du Sénat. Or, César avait franchi sans cet accord la rivière avec ses légionnaires. Il put ensuite entrer à Rome avec ses troupes, Pompée le Grand et une partie des sénateurs ayant fui la capitale. Ce conflit trouva son terme le 9 août de l'an 48 à Pharsale, en Grèce, où les troupes de Pompée furent vaincues. Pompée lui-même, qui avait été un des plus grands Romains du 1er siècle avant Jésus-Christ, finit par trouver une mort indigne en Égypte, où il avait été exécuté sommairement sur l'ordre du jeune roi Ptolémée XIII et de ses conseillers. César était lui-même arrivé quelques jours après l'exécution en Égypte. Il espérait pouvoir éventuellement y capturer Pompée, peut-être se réconcilier avec lui. En guise de réconciliation, les ministres égyptiens lui montrèrent la tête tranchée du grand Pompée. César n'apprécia guère ce geste. Les Romains peuvent se massacrer entre eux, mais détestent quand des étrangers s'occupent de leurs affaires. Cette occasion fut aussi celle de rencontrer Cléopâtre, avec qui César eut un amour et sans doute un fils, Césarion. Ayant réduit les derniers Pompéiens, réfugiés en Afrique et en Espagne, César revient à Rome, où il célèbre un grand triomphe sur la Gaule en 46. En début 45, le Sénat le déclare dictateur pour 10 ans. Puis, le 14 février de l'an 44, il devient dictateur à vie. La question se pose, est-ce que cette dictature à vie annonce une éventuelle royauté césarienne ? Certes, le 15 février, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce de la dictature à vie, lors des fêtes des Lupercales, César avait refusé le diadème royal offert par Marc-Antoine. Mais les soupçons existent. Une partie des sénateurs pense que César vise à un pouvoir personnel qui mettrait fin à la République. Ainsi, les conjurés veulent tuer un tyran. Qui sont ces conjurés ? Au total, ils forment un groupe de 24 hommes. Et on y trouve quelques sénateurs importants. Caius Trebonius, Lucius Tilius Cimber, Caius Cassius Longinus, Marcus Junius Brutus, qui avait bénéficié de l'amitié de César, qui en avait fait presque un fils adoptif. Caius Servilius Casca. Leur programme. Ils veulent rétablir la liberté en tuant César. Mais quelle liberté ? En fait, cette liberté était celle de l'oligarchie sénatoriale qui avait dirigé la République pendant des siècles. L'erreur des assassins de César ne fut peut-être pas tant de le tuer que de ne pas faire des gestes qui auraient finalement terminer l'affaire plus vite qu'elle n'avait commencé. D'abord, ils ne touchèrent pas au corps de César, qu'ils ont laissé dans la curie de Pompée où il avait été tué. À l'origine, il était question de prendre le corps et de le lancer dans le Tibre. En le laissant, ils ont permis l'organisation de funérailles grandioses. Autre erreur peut-être des assassins, c'est de ne pas avoir liquidé le plus fidèle des Césariens, Marc-Antoine, qui saura ensuite retourner la foule romaine contre les assassins de César. Ainsi, le meurtre de César a abouti à une nouvelle guerre civile. Les assassins, réfugiés en Grèce, sont écrasés à Philippe en 42 avant Jésus-Christ. Puis, le conflit éclate entre Octave, fils adoptif du dictateur défunt, et Marc-Antoine, appuyé par Cléopâtre. Vainqueur à Actium en 31 avant Jésus-Christ, Octave eut la prudence nécessaire pour instaurer un régime personnel en conservant les apparences de la République.